certains ne manqueront pas de me faire remarquer que je réponds très exactement à ces questions que je déconseille à toutes et tous. Pour ma défense, j'aimerais préciser que je ne m'interroge pas sur l'être à partir de lui seul. Je veille à ce que l'être conserve sa dualité pouvant être dite de toujours avec l'étant. Dans l'article 3, je me risquais cette possibilité, essayant malgré cette force spéculative qui la signifie, de conserver au maximum un genre de logique d'ordre pratique. Ainsi, les étangs correspondent à l'ensemble de ces corps, composant cette totalité, représentant notre monde. À ce niveau, l'importance des uns par rapport aux autres importe peu. Tous ces étangs sont confrontés à la lumière du jour. Celle-ci, associée à d'autres éléments, a permis la vie. Et cet état spécifique grouille de toutes parts, pour l'heure du moins, sur notre planète. Le vivant, par définition, est en permanence confronté aux étangs et par répercussion, à son insu même, à la manière de chaque espèce les identifie. Un lion, par nécessité, ne peut se retenir de reconnaître ses gazelles susceptibles de lui fournir à leur détriment ses éléments de base, lui offrant de se poursuivre. Chaque race, pour ne pas disposer de quoi ne pas réagir aux étangs, détient un être très proportionnel à cette lecture imposée par ses nécessités lui permettant d'être en vie. Mais tous ces êtres-là ne savent que ressentir en eux les étangs auxquels leurs conditions les confrontent. Ils ne disposent pas d'une acuité semblable à la nôtre qui délivrerait à leur être de quoi prendre un ascendant sur les étangs, au point de pouvoir les intituler. Jamais l'on n'a vu un lion nommer une gazelle comme nous y parvenons. Bien sûr, doivent s'entendre dans les rugissements et autres grognements un genre d'identification partageant quelques similitudes avec la nôtre, sans être précis comme celle-ci, à travers nous, parvient à l'être. Après, cette nature que nous reconnaissons chez toutes les espèces paraît témoigner d'une sorte de mainmise au détriment des étangs, bénéficiant à cette même nature, les privant d'un être aussi étendu que le nôtre, pouvant aller jusqu'à se pencher sur son propre cas, c'est-à-dire à considérer l'être qu'il est comme un étang à part entière. La nature d'une espèce se constate prioritairement par cette corrélation préservée entre les étangs et les êtres concernés, à travers laquelle le monde, incarnant par définition une sorte d'étang ici-bas absolu, conserve une influence majeure, comme si le monde veillait à ce que les étangs qui le constituent soient reconnus juste assez pour que le vivant ait trouvé son compte, tout en privilégiant à l'égard de ces mêmes étangs une sorte d'anonymat, synonyme de non-identification de celle dont nous nous montrons capable, le monde par ce principe désirant rester le patron du monde qu'il est. Car toute nomination prend à sa façon possession de l'étang qu'elle désigne et il est fort prévisible que nos notions de propriété proviennent très exactement de cette faculté, nous offrant d'accoler un nom à ce qui est, au point que nous le jugeons en retour comme nôtre.